Alors, je sais que Darrell était déjà ici en printemps. Et pour moi, ce n'est pas la première fois à Montélimar. Donc, on est vraiment heureux d'être là. Je vous explique, la première fois que j'étais à Montélimar, c'est parce que la voiture est tombée en panne. Et c'était une époque où j'étais encore à l'école biblique en Allemagne. Moi-même, je suis autrichien. Donc, l'accent est autrichien, c'est ce qu'on parle au ciel après. Donc, habituez-vous. Ah, c'était une blague. Du coup, j'étais follement amoureux de Daria, mon épouse, et je n'avais pas de permis encore, et je n'avais pas de voiture. Mais qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui n'a pas de permis et pas de voiture de venir du nord de l'Allemagne à vers Marseille, juste pour visiter pour un week-end celle qu'on aime? Et je me suis dit, je vais trouver quelqu'un qui a une voiture, et je vais trouver quelqu'un qui peut conduire cette voiture. Et on va se faire un petit road trip à 17 ans de 1300 km du nord d'Allemagne pour Marseille, pour venir à Marseille après le boulot à l'école biblique, le vendredi soir faire nuit blanche dans la voiture, être samedi ensemble et repartir dimanche pour être au cours de retour lundi. Et on a passé une super journée samedi et dimanche quand on a retourné, on voulait retourner en Allemagne, ben à Montélimar, sur l'autoroute, la voiture a commencé tuc, 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 et... Ouais, le moteur a explosé. Et on se retrouvait à trois gars où personne parle français, dans la voiture, juste devant la sortie de Montélimar. On a poussé la voiture sur l'autoroute vers la sortie, on nous a remorqué, la police est venue, personne de nous a parlé français. Et c'était la première ville hors Marseille que j'ai vue en France, Montélimar. Et on a dormi la nuit à la gare, juste ici à côté. Jusqu'on a pris le prochain train le lendemain pour repartir. Et je me suis dit, mais c'était pas un bon souvenir, Montélimar. Et je savais pas que un jour je vais revenir. Et les personnes qu'on a rencontrées, j'ai vu les publicités de nougat et tous les trucs. J'ai dit, je veux juste rentrer. Je n'ai rien à faire de nougat ou quoi que ce soit. Donc c'est ma deuxième fois à Montélimar. Mais je pensais jamais qu'un jour on reviendrait pour être dans une église. Et je suis trop touché et ému de voir l'assemblée ici, l'église ici. Et que Dieu, il bâtit son royaume. Et Daré et moi, et toute notre famille, on est... En fait, on a pris la décision juste de donner notre vie pour construire le royaume de Dieu. Et parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau, et rien de plus précieux, parce que c'est la seule, si on parle comme ça, entreprise qui est éternelle. Tu peux construire plein de choses ici sur terre, mais tout va partir un jour. Mais le royaume de Dieu ne partira jamais. Jamais, jamais, jamais. Et... On s'est rencontré avec Matt une fois à Marseille et j'ai vu son cœur pour le Dauphiné. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a un cœur pour le Dauphiné. Et nous, c'était vraiment... On avait un cœur juste de voir Marseille, qui a une mauvaise réputation souvent, transformée, que c'est une réputation qu'il y a le feu de l'esprit qui est présent. Ce n'est pas juste... du négatif, mais c'est Dieu est à l'œuvre. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne cherche pas toujours des endroits et des personnes parfaites, mais il cherche des personnes disponibles. À des endroits où les gens ne s'attendent pas forcément qu'il fait quelque chose. Et on a commencé avec les beaux-parents, l'église, on a pris la succession de l'église aujourd'hui. Mais on a trois campus, on appelle ça trois églises implantées autour de Marseille, à Aix-en-Provence, Marseille et Saint-Victorin, à côté de l'aéroport. Et sept projets d'implantation d'église. Mais pourquoi? Juste parce qu'on rêve que... Moi, je suis autrichien, je viens des Alpes, des montagnes. Et là, dans chaque village, même s'il n'y a que deux maisons, deux agriculteurs qui habitent, il y a forcément un clocher quelque part. De partout. Et je sais que c'est un héritage catholique. Je sais que c'est des bâtiments vides aujourd'hui. Mais chaque fois, vous pouvez demander d'arrêt. Quand on va en vacances ou quand on se promène dans les Alpes, je vois les chapelles, je vois les petites églises. Je dis, je veux rentrer, je veux rentrer. Et je me dis, qu'est-ce que ça serait bien de retrouver dans chaque village, de nouveau, une église vivante où l'Esprit de Dieu est là et il est présent là-dedans. Pas des bâtiments vides, pas de l'historique, pas juste de héritage culturel, mais une présence de Dieu. Pas juste dans les grands centres, Paris, Lyon, Marseille, je ne sais pas quoi, mais dans chaque village, voit de nouveau, proche, à proximité, une communauté de croyants qui vivent la communauté avec Dieu ensemble. Et c'est pour ça que nous, on vit. On veut voir de partout des églises implantées. On veut voir que des chrétiens se rassemblent, que des chrétiens trouvent, des personnes trouvent Jésus trouvent la liberté, trouvent leur vocation et peuvent se multiplier. Quel est le vrai fruit d'un pommier, les amis? Il porte des pommes. Mais à l'intérieur des pommes, il y a quoi? Il y a des graines. Et si tu plantes cette graine, ça produit quoi? Une pomme? Non, un pommier. Ça veut dire que le vrai fruit d'un pommier n'est pas une pomme, mais c'est plein d'autres pommiers. Et je pense que le fruit d'un croyant n'est pas juste de venir dans un culte, mais c'est en fait un mouvement de multiplication des personnes qui trouvent Jésus. Tout le potentiel est à l'intérieur parce que Dieu l'a placé en nous. Et des fois, on a cette image du clergé, le pasteur, les anciens, les responsables, et qu'ils regardent quand on multiplie un peu, que ça grandit un peu. Et moi, j'aime parce que Jésus, il a lancé un mouvement populaire. Combien de fois dans les Actes des Apôtres, nous pouvons lire « Et les croyants sont partis dans les quatre coins, et il y avait beaucoup de prodiges et de miracles. » Ce n'était pas juste les apôtres, ce n'était pas juste les élus, c'était tout le monde, dans la simplicité. Et moi, mes parents ont trouvé la foi quand moi j'avais 13 ans. Mon père était... ils n'étaient pas croyants. Mon père était pas alcoolique, mais fortement bourré tous les week-ends. On va dire comme ça. Il était chez les pompiers et c'était la fiesta tout le temps. Et c'était vraiment très, très lourd à la maison. Et quand il a trouvé Jésus, toute sa vie a changé. Toute sa vie a changé. Et ils sont allés dans une église... mais qui n'était pas... Moi, j'avais 13 ans, 12 ans, je ne voulais pas y aller. C'était une église où il n'y avait pas la louange super comme ça. Il y avait un monsieur qui avait une barbe comme le Père Noël, avec un seul accordéon. Et quand tu as 12 ans, ce n'est pas ton délire, quoi. Ce n'est pas ce que tu recherches. Et j'étais là et j'ai dit, je ne comprends pas. Et le pasteur qui a prêché, ben, chaque prédication, il a commencé à Genèse, il a fini à Apocalypse. Et il a... toujours prêché au minimum 1h30. Et il a toujours dit « j'arrive à la fin », mais il n'est jamais arrivé à la fin. Et je dis « mais cette phrase vaut plus rien, hein, en fait. Et bref, je ne voulais pas y aller. J'ai résisté vraiment parce que pour moi, il n'y avait aucune réponse concrète. Et la seule chose qui était différente, c'est les jeunes de cette église-là ne m'ont jamais lâché. Et ils m'ont invité à un camp de jeunes. Et je suis allé quand j'avais 16 ans. 15 ans, juste avant mon 16e anniversaire. Et il y avait un moment fort avec Dieu et j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu. Il y avait un pasteur qui a prêché sur Jean 3,16 pour tous les chrétiens longtemps au milieu de nous, verset bateau, mais tellement profonde pour quelqu'un qui n'a jamais rencontré un amour inconditionnel. Et moi j'étais là et c'était la première fois que quelqu'un m'a dit de toute ma vie que Dieu m'aime pas pour ce que je fais mais pour qui je suis. Et qu'il est venu pour moi, et c'est ce qu'on fait à Noël, Dieu Emmanuel, Dieu avec nous en fait, qu'il a tout quitté pour nous, pour me sauver. Pas juste le monde inclut moi aussi, mon monde. Et j'étais bouleversé, j'ai pleuré, et pour un ado de 15 ans, de pleurer à fond, un gars surtout, ouais, il faut que vraiment Dieu soit là, quoi. Et j'étais bouleversé par ce message, et j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre, je veux donner ma vie, etc. Et je suis sorti de cette rencontre, de cette culte, de ce culte, et il y avait un des coéquipiers, le bénévole, et il me dit alors c'était sur quoi? Oulala, toi tu as là, j'avais les yeux tout rouges, j'ai pleuré, et j'ai dit oui c'était sur Jean 3,16, Dieu il nous aime, etc. Et il est resté complètement indifférent devant moi. Il me dit oh là 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 là, encore un de ces prédications de masturbation spirituelle, de se faire du bien soi-même. Mais tu as déjà réfléchi à tous les autres qui ne connaissent pas ce message-là. Et moi, j'étais choqué par lui. Je dis, mais c'est qui lui? Qui l'a mis comme coéquipier déjà de, hein? C'est ce que je me suis dit aujourd'hui en tant que pasteur. Qui l'a mis en place, lui? Mais cette phrase ne m'a pas laissé tranquille dans la chambre après. Et je me suis dit, c'est vrai pour moi, c'était la première fois que j'ai entendu ce message-là. Et je veux faire tout dans ma vie pour que tout le monde entende ce message-là. Pas juste pour moi, mais pour tous mes amis, pour toute ma famille, pour tout le monde en fait. Et je suis rentré de ce camp et je suis parti 3 semaines après à l'école biblique. J'ai arrêté l'école, je suis parti en Allemagne à 900 km de chez mes parents. Et j'ai dit, Seigneur, je veux juste te suivre, je suis dans ma vie. Je sais, c'est un parcours très atypique. Croyez-moi, c'était la guerre avec mes grands-parents, oncles, tantes, tous ne sont pas croyants du tout. Il n'y a rien de pire que de quitter sa formation professionnelle, son école, son lycée, pour servir Dieu. C'est grave. C'est pas sûr. C'est une secte. On ne sait pas trop. Et je ne veux pas dire ce matin que tout le monde doit faire ça, pas du tout. Mais pour moi, c'était une évidence pour moi. Et aujourd'hui, je suis là pour la deuxième fois à Montélimar. Et j'aimerais vous partager quelque chose parce qu'on s'approche de Noël. Et j'aimerais parler de quelqu'un qu'on ne parle pas trop souvent dans le milieu où moi je suis peut-être ici tout le temps. Mais c'est Joseph. Pas Joseph de l'Ancien Testament, mais Joseph, le père, quelque part, de location de Jésus. Ici sur terre, quoi. Et on parle de Marie, on parle de Jésus, mais Joseph, quel homme de Dieu. Et moi, il me touche profondément. Là, on s'approche de Noël et on se remémore que Dieu est venu dans ce monde pour nous sauver, pour faire une différence, pour être lumière dans le monde. Mais après, je vois Joseph et je me dis juste, waouh, quel homme de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve en Matthieu 1, versets 18 à 25, que vous connaissez peut-être sûrement pour la majorité. Il y a marqué, voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre, vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille enfant attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il vit que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas avec elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Alors cette histoire, qui l'a déjà entendue? Montrez-moi juste. Oh, ok, on connaît. Est-ce qu'elle nous choque cette histoire? Non. C'est bien, c'est normal. On a même des fois une image romantique de cette histoire. Ouais, c'est beau, super, etc. Jusqu'au moment où ça t'arrive à toi. Et moi j'aime bien étudier la parole, mais j'aime aussi bien de me mettre à la place d'eux. Parce que des fois, j'ai l'impression, je lis la Bible avec une distance, je dis, ouais, c'était comme ça. Mais quand je me mets à la situation, dans la position même, tout change d'un coup. Et si je me mets maintenant dans la situation de Joseph, qu'il y a un ange qui parle à Marie, à ta fiancée. Moi, j'ai 4 filles. Le jour où une d'entre elles rentre à la maison, elle me dit, papa, je suis enceinte, il y a un ange qui est venu. On rigole, mais qu'est-ce que Joseph, il a vécu là? Et c'était pas la norme. On peut se dire, oui, à l'époque, il y avait beaucoup d'anges qui en fait. Non, c'était pas la normalité historique à l'époque. C'était pas quelque chose de courant, ben, il y a des anges qui se sont promenés de partout. Non, c'est une exception là. Et des fois, il faut comprendre. Moi, je dis, comment j'aurais réagi en tant que Joseph? Déjà, Marie, elle avait entre 12 et 14 ans, on pense à peu près. Ça veut dire, cette jeune fille, il y a un ange qui lui parle, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, c'est pas le moment, waouh, maintenant, ma renommée va grandir. À ce moment-là, sa vie est ruinée, les gars. Toute sa réputation. Et aujourd'hui, on vit dans une société où tomber enceinte, mariée ou pas mariée, selon le milieu, c'est moins bien vu. Ouais. Mais à cette époque-là, tomber enceinte par un ange, t'étais exclu de la société complète. Et elle, elle est là et maintenant elle doit expliquer ça à son fiancé. Et je peux juste m'imaginer cette pression relationnelle-là. T'es fiancé. Et à l'époque, quand tu étais fiancé, aujourd'hui, si on est encore un peu traditionnel, c'est l'homme qui demande la femme. Je ne sais pas si encore d'accord quelqu'un avec ça, mais moi, je faisais ça. J'ai demandé d'arrêter, est-ce que tu veux passer le reste de ma vie avec moi là? Et à cette époque-là, une fiançaille, ce n'était pas juste entre deux personnes, c'était entre deux familles. Donc, c'était un vrai engagement. Tu ne pouvais pas juste dire, non, finalement, ça ne marche pas. Les fiançailles, c'était déjà la préparation pratique et concrète du mariage. Le contrat était signé. C'était juste les préparatifs. Et là, il y a tout un village qui fêtait déjà les fiançailles. Et là, elle est fiancée avec Joseph. Et il y a ça qui vient maintenant au milieu là-dedans. Donc peut-être elle avait son plan du mariage. Peut-être elle avait son plan de son avenir. Peut-être Joseph avait ses plans. Son père lui-même travaillait le bois aussi. Donc lui, il avait son entreprise, charpentier, où il travaillait le bois, peu importe comment on appelle ça. Mais il avait sa renommée, il avait son... Des fois, on pense qu'il n'avait rien à faire toute la journée. Si, il avait un job. Il travaillait, il avait ses clients. Et là, il entend, chérie, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Ah, c'est bien que tu cites le mot bébé. Pourquoi? Tu veux combien? 3, 4, 5, pas de souci. On va faire ce que tu veux. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu vois, hier, j'étais dehors et j'ai joué. J'ai aidé ma mère un peu. Et d'un coup, il y a un ange qui est venu et qui m'a dit que je serais enceinte, en fait. Il dit, c'est quoi le nom de l'ange? Des fois, on lit la Bible, mais on se rend pas compte. Et du coup, elle lui dit cela, et Joseph, la Bible nous dit que c'est un homme juste. Il est tellement juste et noble quelque part, que la Bible nous dit qu'il voulait l'envoyer en secret. Veut dire quoi? Veut dire qu'il voulait se séparer d'elle, en fait. Mais pas en la dénigrant, en crachant sur elle, en la traitant de tout ce que lui pourrait ressentir en elle comme trahison, mais d'une manière en secret, pour que lui-même ne soit pas affecté par ce qui est arrivé là, mais qu'elle garde une certaine dignité aussi. Waouh, on voit le cœur de Joseph. Malgré, et je pense qu'il a eu, je l'interprète là maintenant, vous pouvez, ce n'est pas théologiquement correct peut-être, mais j'imagine qu'il s'est senti traité, je peux vraiment le croire ou pas. Qu'est-ce qui m'arrive là maintenant? Et il décide dans sa tête, je vais l'envoyer en secret, la Bible nous dit. Ça veut dire, je ne vais pas l'humilier, mais je ne peux pas rester avec elle non plus, mais je ne vais pas lui faire du mal. Waouh, quel caractère! Quel caractère noble de Joseph! Et qu'est-ce qui se passe quand les hommes ils ont des problèmes, ils sont dépassés? Ben, ils vont dormir. Ma femme, quand on se dispute, quand on a des problèmes, elle a des insomnies, moi je dors comme jamais. Et là, la Bible nous dit, Joseph... je suis enceinte, un ange, Joseph va dormir. C'est bon, ça m'a dépassé, moi je me couche. Et il va dormir. Et dans un rêve, il y a un ange qui se montre à lui. Et l'ange lui parle. Et il dit, en fait, c'est vraiment moi. Et prends-la pour épouse, mais ne la touche pas. Attends. Et ça serait le sauveur du monde. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et là, il s'y réveille et il fait exactement ça. Et c'est cette rencontre avec cet ange de Dieu-là qui a changé la vie de Joseph à toujours. Et des fois, dans nos milieux, des fois évangéliques, charismatiques, on croit que quand on a une rencontre avec Jésus, ça ne peut que changer pour le mieux. Mais j'aimerais te dire une chose. Pour le mieux, oui, dans un aspect éternel. Et c'est important de comprendre aussi, parce que des fois, et on lit dans la Bible, et on le prêche et on le chante, que ses voix sont plus hautes que nos voix. Mais des fois, je pense que mes voix sont parfaites, sauf que les voix de Dieu sont parfaites. Et le plan de Dieu pour Joseph n'était pas juste qu'il prend pour femme Marie, qu'ils ont leur petite entreprise de bois, qu'ils vivent bien et tranquillement, mais qu'ils changent l'histoire de l'humanité. Waouh! Est-ce que Joseph, il a pensé à ça? Je ne pense pas. Mais avec son obéissance... Toute sa vie était chamboulée et il a donné, il a perdu quelque part sa vie pour une cause plus grande. Et ça, j'avais vraiment à cœur de nous parler ce matin, c'est perdre sa vie pour une cause plus grande. En fait, Noël, l'arrivée de Jésus, et on sait que Jésus l'a quitté le ciel, la Bible nous dit, pour une cause plus grande, pour que nous tous pouvons être avec lui. Et il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui ont perdu leur vie pour une cause plus grande. Et perdre sa vie veut dire ne pas toujours être compris. Des fois, on aimerait que tout le monde comprenne toutes nos décisions. Sache une chose, quand un ange te parle, plus personne ne te comprend. Et des fois, on croit que tout le monde doit toujours tout comprendre. Mais je suis sûr que Joseph n'était pas compris à ces instants-là. Marie n'était pas compris là. Et maintenant, il doit prendre pour femme Marie. Et peut-être il s'est dit, ben, on va se marier vite fait. Comme ça, on peut dire l'enfant, c'est un enfant de nuit de noces. Et non, il voulait exactement faire comme l'ange lui dit. Il dit, ok, je vais l'accueillir chez moi, mais je ne vais pas la toucher. Parce que je vais obéir à ce que Dieu m'a dit. Quel scandale dans cette époque-là d'accueillir une femme chez toi, où tout le monde pourrait déjà croire qu'en tout cas, vous cohabitez ensemble, donc vous couchez aussi ensemble, mais je ne le fais pas, peu importe ce que les autres pourraient penser. Waouh ! Sa vraie crainte à Joseph n'était pas le regard des autres, c'était le regard de Dieu. Et ça me touche profondément qu'il a fait ça. Pour nous, on lit ça comme si, ouais, et alors ? Ben oui, et alors ? C'était incroyable, comme acte d'obéissance, comme foi que ça doit être Dieu. Et finalement, tout est vraiment arrivé comme l'ange l'a annoncé. Elle a accouché et ce qui est fou, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Des fois, ça nous coûte notre réputation. Et je ne sais pas toi si tu es très, très, très attaché à ta réputation ou pas, mais moi, je viens d'un village. Ceux qui viennent des grandes villes, c'est un peu plus anonyme, on va dire. Mais quand tu viens d'un village, tous mes voisins savent ce qui se passe. Et on a une certaine façade. Oui, oui, tout va très bien, même si c'est la misère à la maison, mais tout va bien. On a une réputation, on essaie de construire une réputation. Quand mes parents, ils ont trouvé la foi, c'est un village très, 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 très catholique. Et mon père, il a pris toutes les cierges de la maison. Il y en avait plein dans chaque pièce. Il s'est tous mis dans le jardin et il a mis un gros feu. Il a dit, plus d'idoles chez moi à la maison. Croyez-moi, la réputation dans le village était foutue. Ils l'ont viré des pompiers. Ils nous ont viré du club de foot. Ils nous ont viré de tout. Aujourd'hui, dans un France laïque, on pourrait dire, oh, je ne comprends pas. Dans un Autriche bien, bien catho, c'était, vous êtes devenu fou. Dans nos passeports, il y a la confession de foi qui est marquée dedans. Du coup, c'était marqué, ben, sans confession. Ben si, mais pas la tienne, quoi. Ouais, bref. Ta réputation était en jeu. Et moi, mon père, il s'appelle aussi Joseph. Mais là, je parle de Joseph de la Bible. Mais en fait, il a dit, ce que j'ai vécu avec Dieu, peu importe quelle est ma réputation derrière et quel est le prix derrière, parce que c'est plus important. Et j'aimerais te demander une seule question. Est-ce que tu es prêt de mettre ta réputation en jeu si Dieu te le demande? Elle peut être une idole aussi. Pardon de dire ça, mais des fois on est tellement préoccupé ce que les gens pourraient penser. À ces instants-là, Joseph, il savait que je sais ce que les gens peuvent penser, mais je veux savoir ce que Dieu il pense de moi. Et dire oui, je le fais. De perdre sa vie veut dire aussi de perdre des fois sans plan d'avenir. Je ne sais pas comment tu t'es projeté pour les prochaines 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Ça dépend de l'âge aussi, ou 40 ans. Mais l'avenir nous fascine toujours. Surtout quand il y a des crises, comme le Covid ou d'autres. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On est fasciné par l'avenir. La voyance fait son boom. Hein. Tout le monde veut savoir ce qui se passe dans l'avenir. Et on fait tout pour assurer notre avenir. Et quand Jésus rentre dans notre vie, c'est possible que notre avenir est différent d'un coup. Avec des choses qui sont extraordinaires, mais qu'on n'aurait jamais programmées comme ça. Et je pense que pour Joseph, tout son avenir a changé. Peut-être qu'il n'a jamais programmé dans son planning de sa vie, oui, papa, maman, alors ce que je veux faire de ma vie, c'est que je vais faire ma formation, je vais être chef d'entreprise, travailler avec le bois, après il y a un ange qui va venir, il va me parler, je dois être exclu de toute la société, après il y a le roi qui va décider que l'enfant, qui n'est même pas de moi, mais que genre un ange a produit à Marie, ma fiancée, que j'ai pas le droit de toucher, juste qu'elle a accouché cet enfant-là, plus personne veut voir de nous, je sais même pas elle va accoucher, on se trouve dans un endroit juste pourri, dégueulasse. On a une image romantique de la crèche, mais c'était tout sauf romantique, les amis. Tout, tout, tout. Ça puait, c'était horrible, c'était dans la plus grosse pauvreté qui existait. Et là, elle va naître. Et après, le roi va être jaloux parce qu'il entend parler d'autres personnes que c'est vraiment le roi des Juifs. Donc du coup, il faut qu'on fuit Israël en Égypte pour devenir réfugié là-bas, pour après retourner en Israël. Et tu te dis, mais tu signes pour cette vie-là? Non, non. Mais ça, c'était la vie de Joseph. Et humainement, on pourrait dire, Dieu a détruit sa vie. Humainement. Mais en fait, Dieu l'a utilisé pour éduquer humainement celui qui a sauvé l'humanité pour lequel on est là aujourd'hui. Waouh! Waouh! Et je me suis toujours dit, je veux prendre exemple de Joseph, de dire, ok, peut-être j'ai mes plans, peut-être j'ai mon planning, mais en fait, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Même si ça chamboule toutes mes plannings, même si ça chamboule toutes mes espérances, ce que je veux voir, ce que je. Mais en fait, il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Et Joseph, je ne pense pas qu'il savait d'avance qu'il va finir une fois réfugié en Égypte. Je ne pense pas. Si j'aurais su par tout ce qu'on doit passer, je ne sais pas si j'aurais signé. Hein. Mais c'est bien des fois de ne pas savoir, mais juste de faire confiance à Dieu. Et Joseph était prêt de perdre sa vie pour une cause plus grande. Proverbe 16, verset 9 nous dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dieu nous guide. Et en Jacques 4, verset 13, il y a marqué, « Maintenant faites attention, vous qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans cette ville ou restons là-bas une année, nous ferons des commerces, nous gagnerons de l'argent, etc. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est dans quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. » Dara, elle a son histoire, mais elle l'a déjà racontée, elle l'a écrit aussi. De manière subite, la vie peut changer. Et je suis sûr, il y a plein de témoignages au milieu de nous que des fois, des choses arrivent comme ça. Et tu dis, c'est comme c'est tombé du ciel ou c'est, je ne sais pas d'où ça vient d'un coup. Et on perd tout notre confort de contrôle. Et ce qui est incroyable, c'est quand Dieu est dans ces histoires dedans, la Bible nous dit « Tout concourt au bien à ceux qui sont en moi. » Ça veut dire que ça construit quelque chose. Perdre sa vie veut dire abandonner ses propres désirs de réussite. Qui aime réussir dans la vie? Peu importe ce que c'est. Je pense personne là et dit bah, « Moi, j'aime l'échec de base. » Personne, ni à l'école, ni au boulot, ni dans notre couple, ni dans nos familles, ni à l'église, on aime la réussite. Et chacun de nous, si je passe le micro maintenant, ce que je ne vais pas faire, mais bon, a une définition différente de réussite. Chacun de nous, mais une chose est claire, chacun de nous aime réussir quelque chose. Tu connais le sentiment quand tu rentres après une journée remplie et tu as l'impression que tu n'as rien réussi? C'est horrible. Mais tu connais ces journées où tu rentres le soir et tu dis, yes, aujourd'hui on a réussi quelque chose. Donc on aime réussir quelque chose. Je ne sais pas ce que Joseph voulait réussir, mais en tout cas, une chose est sûre, ses résultats, nous on sait aujourd'hui, mais lui, je ne sais pas comment il les a vus. Il est parti en réfugié en Égypte, avec rien, avec absolument rien. C'est lui qui avait une entreprise, une réputation, sa vie était construite déjà, était obligé pour un enfant qui n'est même pas de lui de partir en tant que réfugié dans une autre nation, pour après repartir dans sa nation. Hein? Est-ce que ça a du sens? Quel est le sens qu'un Autrichien devant vous là maintenant? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Des fois avec Dieu, quand il dit « mes pensées sont plus hautes que vos pensées », c'est vraiment vrai quoi. C'est vraiment vrai. Et on perd, on pourrait dire, ok, oui, mais tu comprends Jésus, Joseph, il a tout donné, et après, il a éduqué quand même. Jésus, c'est fort quand même. Donc, il était avec Jésus tout le temps, il l'a éduqué, il était avec lui, et après, oui, il a tout perdu au début, mais après, il était avec lui, il était avec les disciples aussi, il a fait plein de prodiges et de miracles, après, il était à la croix, il dit, oui, mon fils, il vous a tous libérés, et après, il était avec les apôtres, il a implanté la première église, et comme héritage pour sa fidélité, Jésus lui a donné la première église de Jérusalem, ou quoi que ce soit. En fait, non. On entend la dernière fois parler de Joseph quand ils l'ont cherché 3 jours parce qu'il a trop prêché déjà à l'âge de 12 ans dans le temple. Et après, on n'entend plus parler de Joseph. Et les théologiens, les historiens croient que entre son ministère et ses 12 ans, quelque part au milieu, Joseph est peut-être décédé. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Un homme qui abandonne tout, qui ne voit même pas le résultat de ce qu'il a investi. Où est la logique là-dedans? Logique humaine, il n'y en a pas dedans. Mais je peux te dire une chose, il y a une logique spirituelle dedans. Et je trouve ça tellement fou. Ce n'est pas parce que Joseph n'a pas vu le résultat qu'il n'a pas participé au résultat. Et ça, c'est la grande différence. Et moi, j'ai toujours dit avec Daria, nous, on veut vivre pour revoir un réveil en France et en Europe. Si je le vois ou pas, peu importe. Mais on va tout faire pour le vivre de nouveau. On a regardé, on a étudié sur tous les continents, quelles sont les choses qui, avec le réveil, comment ça se passe, que ce n'est pas juste des pics d'une seule génération, mais vraiment une vague sur plusieurs générations. Il y a toujours une chose, c'est l'Esprit de Dieu, surnaturellement. Une révélation de l'Esprit de Dieu. Il y a toujours une deuxième chose, c'est le sacrifice. Quand tu regardes Élie, il y a toujours un sacrifice qui est prêt, que Dieu peut consommer. Le sacrifice que le Nouveau Testament nous dit, c'est toi et c'est moi. Le vrai culte que vous pouvez me rendre, c'est mettre à disposition comme sacrifice vivante pour moi. Des fois, on prie pour le réveil, mais est-ce qu'on est prêt, comme Joseph, d'abandonner tous nos rêves d'avenir, de désir, de réputation et de planning qu'on a déjà préparé pour un rêve beaucoup plus grand qui s'appelle peut-être que Dieu bouleverse la France de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Le sacrifice. La troisième chose, c'est des structures. Ça veut dire si Dieu bouge énormément, mais il n'y a aucune structure pour contenir ça, ben c'est un one shot comme ça. Mais il n'y a rien derrière. Des systèmes après, comment ça peut marcher ensemble, et des formations, on appelle ça du discipulat. Et quand tout ça est ensemble, on voit aujourd'hui en Amérique latine et dans d'autres nations, en Afrique aussi, que les réveils perdure plus longtemps. Et nous, on travaille et on veut voir ça en France. Joseph était appelé pas juste d'être le petit charpentier, était appelé d'éduquer ici sur Terre durant quelques années le sauveur du monde. Et je trouve ça tellement fou parce que quand l'ange du Seigneur est là, attention, quand l'ange du Seigneur parle à Joseph, il lui parle pas en mode « Oui, Joseph, fils de Jean-Pierre, je ne sais pas. » Il lui dit quoi? Il dit « fils de David ». Mais son père biologique ne s'appelait pas David. Pourquoi l'ange appelle Joseph « fils de David » Et quand on regarde au début de Matthieu, on voit toute la liste de tous les prénoms généalogiques de la descendance de Jésus. En verset 17, il y a marqué « Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'au David. 14 générations depuis David jusqu'au déportement à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ. » Ça veut dire, si tu comptes 28 générations derrière, il y avait David. Et maintenant, il y a Joseph. Et maintenant, l'ange dit, Joseph, fils de David. Est-ce que tu connais ton grand-père 18 générations ou 28 générations derrière? Non. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Qu'est-ce que l'ange du Seigneur voulait faire? Le rappeler à son identité divine. Pas juste à son descendance. Là, maintenant, ma famille, un tel, mon père, un tel, ma mère, un tel. Tu vois, il a eu de l'influence. Tu vois, lui, il a fait ça. En fait, l'appel de Joseph n'était jamais d'être charpentier. Son appel n'était jamais juste d'habiter à Bethléem ou en Israël un peu. Son vrai appel, c'est que le roi des rois va naître de sa maison. Waouh! Et Dieu revient toujours vers le plan initial. Si tu le connais ou pas. Si la génération avant toi était une bénédiction pour toi, où tu peux construire sur les épaules, alléluia. Si elle était une malédiction pour toi, parce qu'ils ont fait tellement de choses pour lesquelles tu n'es vraiment pas fier, sache une chose, Dieu ne compte pas qu'une génération. Il compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la Bible nous dit même, avant la fondation de la terre, il a déjà planifié les plans pour nous. Ça veut dire, les plans que lui a ne sont pas déterminés d'une génération de deux, mais il nous appelle par notre identité véritable, Joseph, fils de David. Et j'aimerais terminer, pas comme le pasteur que je vous ai dit au début, mais vraiment terminer, avec une question tout simple. C'est, est-ce que tu es prêt d'être un Joseph? Pour les femmes, dites-vous Joséphine ou je ne sais pas moi. Non. Pas que ça devient compliqué maintenant dans la tête. Mais... dans cette attitude de dire, waouh, je suis prêt pour la cause du Christ de ne peut-être pas être toujours comprise. Je suis prêt pour la cause de Christ peut-être d'abandonner mes plans d'avenir. Je suis prêt peut-être pour la cause de Christ d'abandonner mes désirs de résultat. Et je veux que ma vie serve entièrement pour que le Sauveur du monde puisse être propagé dans mon entourage. Parce que nous avons tous un appel de Joseph, que l'enfant qui nous était envoyé, qui habite dans chacun de nos vies parce que nous sommes un temple de son esprit, peut se manifester dans notre entourage. Et j'ai vraiment un cœur. Quand Mathieu m'a parlé du cœur pour le Dauphiné, aussi ce projet qui est à Grenoble, que ce n'est pas juste une affaire d'institution, c'est l'Église qui fait. Chacun de nous, nous ensemble en tant qu'Église, on est appelé de faire des enfants spirituels. Peut-être d'ouvrir nos maisons et dire, je veux que ma maison soit une maison d'accueil pour que d'autres puissent trouver la foi. Qu'un mouvement populaire s'installe ici dans la région, de nouveau. Et que les villages et les villes sont touchés d'une manière profonde par Dieu et par des hommes et des femmes qui disent, ma vie est consacrée à une cause beaucoup plus grande. Même si je ne verrai pas les résultats, et alors, je participe aux résultats. Je ne construis pas juste ma vie, mais je construis quelque chose de beaucoup plus grand. Pour la prochaine génération, pour la prochaine génération, et pour la prochaine génération. Et Dieu dit, je suis le Dieu. Pas que d'une génération, mais de toutes les générations. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour créer une plateforme ici, dans la région, pour que nos enfants et nos arrière-enfants, nos petits-petits-petits-enfants peuvent dire, c'est normal que la moitié de la ville est croyant. Et alors, le réveil s'installe de nouveau en France. Peut-être on peut juste fermer nos yeux sur nos places là où on est.